Le journal vous est présenté par Sophie Delpont. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. Le ministère français des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur d'Iran à Paris et dénonce dans un communiqué l'emprisonnement intolérable de deux universitaires français détenus depuis plus de 6 mois. Au 3e jour de grève de la faim de Fariba Adelka, franco-iranienne, directrice de recherche au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, analyse à suivre avec Bertrand Galichet. Des policiers massivement déployés, internet coupé en Inde, malgré la répression, de nouvelles manifestations ont eu lieu cet après-midi. Reportage dans ce journal. Nous irons aussi à Cuba. En un an, plus de 9000 médecins cubains ont été rapatriés de leur mission au Brésil, en Équateur et en Bolivie. Conséquence du virage à droite en Amérique latine. Reportage et analyse des conséquences économiques avec Dominique Piron. Et puis en France, au 23e jour de grève contre la réforme des retraites, à Nantes, les syndicats des transports en commun ont déposé un préavis de 6 mois. Et puis c'était une demande forte des élus locaux, l'annulation de la limitation à 80 km/h sur les routes. Les départements peuvent désormais revenir à 90 km/h, mais sans enthousiasme pour les élus. Pourquoi ? Analyse à suivre avec Stéphane Robert. Le Quai d'Orsay a convoqué l'ambassadeur d'Iran à Paris cet après-midi. Il réclame la libération immédiate des deux universitaires français détenus par Téhéran, Fariba Adelka et Roland Marchal, en prison depuis plus de 6 mois. Alors que Fariba Adelka est en grève de la faim depuis mercredi avec une universitaire australienne spécialiste du Moyen-Orient, Kali Moore-Gilbert, détenue elle depuis 15 mois. Cette grève de la faim s'accompagne d'une grève de la soif. Bertrand Galichet, le temps presse et Paris a donc hausser le ton encore cet après-midi.
La lettre que la franco-iranienne Fariba Abdelra et sa collègue australienne Kili Moore-Gilbert annonçant leur grève de la faim ont pu faire sortir de la prison d'Evin prouve qu'il y a urgence. Le chercheur français Roland Marchal, arrêté lui aussi en juin, est également toujours détenu. La grève de la faim entamée par les deux femmes est un choc pour leur comité de soutien. Richard Banegas, professeur à Sciences Po.
Cela nous a saisi évidemment et terrifiés à la fois. On a peu d'informations sur leurs conditions de détention. Fariba Abdelra est à la double nationalité, les Iraniens ne la reconnaissent pas et donc elle ne peut pas bénéficier des visites consulaires. À la différence de Roland Marchal, on sait qu'elles ont subi l'une et l'autre, et Roland également sans doute, des interrogatoires poussés, donc on peut imaginer les conditions dans lesquelles cela se déroule, de torture psychologique, de torture peut-être aussi physique, on ne le sait pas exactement.
À plusieurs reprises, la France a demandé la libération de ses ressortissants et s'est heurtée à chaque fois à une fin de non-recevoir des autorités iraniennes qui parlent d'ingérence. Aujourd'hui, le Quai d'Orsay dénonce un emprisonnement intolérable et fait part de son extrême préoccupation en réitérant sa demande d'accès consulaire.
Bertrand Galichet. En Algérie, la première manifestation depuis la mort du général Salah a eu lieu cet après-midi pour ce dernier rassemblement de l'année contre le régime. Il est toujours difficile de savoir combien se sont rassemblés, mais la mobilisation était bien en deçà de celle des dernières semaines, selon plusieurs journalistes sur place. Après des manifestations d'une ampleur exceptionnelle, le Irak, le mouvement populaire inédit et massif de contestation pacifique du régime se poursuit depuis le 22 février. Dans le nord de l'Inde, la répression se poursuit envers les manifestants. 27 personnes ont été tuées au cours des 2 dernières semaines. Les autorités ont coupé l'accès à Internet depuis ce matin. Et dans l'état d'Uttar Pradesh, plus de 5000 personnes ont été placées en détention préventive. Mais les rassemblements continuent pour dénoncer la nouvelle loi sur la citoyenneté, dénoncée comme discriminatoire à l'encontre des musulmans, comme l'a constaté notre correspondant en Inde, Antoine Guinard.
Les manifestants sont arrivés au compte-gouttes devant les bureaux du gouvernement d'Uttar Pradesh à New Delhi. Un à un, ils ont tous rapidement été encerclés par les policiers, puis embarqués par ces derniers à bord de jeeps ou de bus réquisitionnés pour l'occasion. Aucun d'entre eux ou presque n'a eu le temps de s'exprimer devant les dizaines de caméras de télévision venues couvrir cette manifestation incessamment étouffée par les forces de l'ordre. Seuls quelques intrépides ont eu le temps de dénoncer la répression du gouvernement nationaliste hindou au pouvoir à New Delhi et en Uttar Pradesh.
Pourquoi frappez-vous les étudiants? Pourquoi vous ne nous laissez pas nous exprimer? Vous faites passer cette loi discriminatoire, vous voulez qu'on se taise?
Des centaines de personnes ont toutefois pu se rassembler devant la grande mosquée de Delhi pour manifester après les prières du vendredi en milieu d'après-midi. La communauté musulmane se dit victime d'une répression policière sans précédent dans l'état d'Uttar Pradesh. Le gouvernement régional a par ailleurs suspendu Internet dans près d'un tiers de la région ce vendredi afin d'éviter la propagation de la violence, tout en donnant carte blanche à la police.
Antoine Guinard. Plus de 235 000 Syriens ont été déplacés en moins de 2 semaines, selon l'estimation des Nations Unies aujourd'hui. Conséquence de l'intensification des combats et des bombardements du régime syrien et de son allié russe dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest. Depuis le 16 décembre dernier, les forces du régime, soutenues par l'aviation russe, ont accru leurs bombardements et de violents combats au sol qui les opposent aux djihadistes et rebelles, malgré un cessez-le-feu annoncé en août. Des cadeaux envoyés aux députés européens, c'est ce qu'a voulu dénoncer l'eurodéputée France Insoumise Manon Aubry dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Des cadeaux censés disparaître mais qui perdurent donc à Bruxelles. Pierre Benazé.
Pour Manon Aubry, c'est le premier Noël comme députée européenne et elle a trouvé d'étranges paquets sous son sapin.
Pour Noël, on a reçu plein de cadeaux et... mon cadeau préféré, c'est cette belle bouteille de champagne venue toute droit de Russie. Ouais, ouais, c'est Vladimir qui nous envoie sa petite bouteille de champagne. Et puis, on a de la part de l'ambassade de Russie une belle photo de Vladimir.
Les représentants de Vladimir Poutine ne se sont peut-être pas ruinés, mais au moins, ils ont le vin patriotique, car en fait, de champagne, c'est en réalité du vin mousseux russe. En tout cas, la vidéo de Manon Aubry a reçu le soutien de la députée centriste Nathalie Loiseau, tête de liste Renaissance pour les élections européennes. Une belle unanimité politique qui n'aura pas duré, mais cette pratique des petits cadeaux n'est pas une nouveauté. C'est même peut-être un peu suranné. Les caisses de vin, les boîtes de chocolat, c'était une réalité pour les députés européens, mais cela avait commencé à disparaître. Les députés sont censés déclarer tous les cadeaux, mais cette liste publique en recense à peine plus de 50 pour les 5 dernières années. Qu'il s'agisse d'entreprises, de laboratoires de réflexion, d'ONG, les lobbies cherchent d'abord à faire entendre leurs arguments aux députés par des contacts directs. 11 800 lobbies sont officiellement enregistrés auprès de l'UE et les rencontres les plus importantes doivent être déclarées.
Pierre Benazé à Bruxelles pour France Culture. C'est une nouvelle révélation très embarrassante pour l'Église, confrontée à des scandales de pédophilie à répétition. Une nouvelle information publiée aujourd'hui par le Washington Post à propos de l'ex-cardinal américain Theodore McCarrick, défroqué en février dernier pour avoir agressé sexuellement un adolescent dans les années 70. Selon le journal, ce prêtre avait, avant d'être finalement déchu de ses fonctions, aurait versé sans motif précis au cours de sa carrière des centaines de milliers de dollars à des responsables religieux. Loïc Loury.
Plus de 600 000 dollars versés sur environ 2 décennies. Des archevêques, des cardinaux, des bureaucrates du Vatican se sont partagés le pactole, mais aussi 2 souverains pontifes, 90 000 dollars pour Jean-Paul II, 290 000 pour Benoît XVI. Au total, selon le Poste, les bénéficiaires de cette manne seraient plus d'une centaine. Le journal précise que les sommes ont pu être reversées à des œuvres de charité. Théodore McCarrick, en effet, ex-archevêque de Washington, fut un très influent leveur de fonds pour le Saint-Siège, une légende. En la matière, dit même le Poste, il disposait surtout d'un fonds spécial qu'il redistribuait à loisir. Mais McCarrick, 89 ans, est aussi le premier cardinal à avoir été défroqué suite à une affaire de pédophilie. Or, plusieurs destinataires de ces chèques étaient chargés d'enquêter sur les soupçons qui pesaient sur lui. De quoi éclairer cette affaire d'un jour nouveau, l'ascension sans obstacle de cette figure de l'Église malgré des comportements dont le Vatican avait pris très tôt connaissance. Et ce n'est pas une première. Selon le Poste, le journal avait révélé cette année le cas d'un évêque de Virginie impliqué dans une affaire de pédophilie, un prêtre qui envoyait en parallèle des chèques à d'influents membres du clergé américain.
Loïc Loury à New York pour France Culture. À Taïwan, le 3e et dernier débat officiel pour l'élection présidentielle a lieu ce soir. Le scrutin se tiendra, lui, dans 15 jours. Une élection cruciale pour l'avenir des relations avec la Chine. L'île voit s'affronter 3 candidats, dont Tsai Ing-wen, mais qui fait la course en tête. Pour un 2e mandat, le parti démocrate favorable à l'indépendance de l'île veut couper les ponts, lui, avec la Chine continentale, provoquant la colère de Pékin qui met Taïwan sous pression. À Pékin, Stéphane Pambrin.
Pékin a sorti l'artillerie lourde pour tenter d'impressionner Taïwan à 2 semaines de l'élection présidentielle. Pour sa première mission, le porte-avions Shandong, le plus important bâtiment de la marine chinoise, a mis le cap sur le détroit de Formose qui sépare Taïwan de la Chine continentale. Des manœuvres militaires dont l'objectif est de montrer que la Chine est capable d'isoler complètement Taïwan et empêcher l'arrivée de renforts dans la zone en cas d'invasion de l'île par les troupes communistes. Pékin s'inquiète de voir Tsai Ing-wen faire la course en tête. La présidente sortante est la bête noire des communistes chinois. Elle est favorable à l'indépendance de l'île et elle est surtout protégée par Washington qui lui a vendu plus de 10 milliards de dollars d'armement cette année, dont des chars Abrams et des chasseurs F-16. Face à elle, deux candidats en difficulté, notamment son adversaire du Kuomintang, Ran Goyu, surnommé le Trump taïwanais pour ses discours populistes. Il est favorable, lui, au rapprochement avec Pékin, mais a beaucoup baissé dans les sondages. 28 points le séparent désormais de Tsai, qui a rappelé ce soir son attachement à l'indépendance de l'île. Le vote des jeunes sera décisif. Ils seront 1 million à se rendre aux urnes pour la première fois le 11 janvier. Une jeunesse traditionnellement démocrate et opposée à la réunification avec Pékin.
Nous partons maintenant à Cuba où la diplomatie médicale est mise à mal. En un an, Cuba a rapatrié plus de 9000 de ses médecins, des missions au Brésil, en Équateur ou encore en Bolivie. Conséquence du virage à droite que prend l'Amérique latine. Certains pays ne semblent plus vouloir faire affaire avec Cuba. Un manque à gagner considérable pour l'île qui avait fait de ses missions médicales à l'étranger sa première entrée de devise à La Havane. C'est un reportage de Domitille Piron.
Marta Alvarez-Saez est de retour dans sa petite maison au mur décrépit en périphérie de La Havane. Elle fait partie des 400 médecins rapatriés d'Équateur suite à un désaccord politique. Passé à droite, le pays sud-américain n'acceptait plus de payer le salaire des médecins à l'État cubain qui en reversait seulement 20% à ses ressortissants. Un salaire tronqué pour les médecins en mission, mais toujours plus élevé que le revenu cubain. Marta a gagné 700 dollars en Équateur. À Cuba, elle touchera 80 dollars pour son poste à l'hôpital. Mais Marta l'assure, ce qu'elle regrette, ce sont surtout les patients laissés derrière elle à Guayaquil.
La sortie a été brusque et avec des larmes. La population pleurait parce qu'ils ont besoin de nous. Là-bas, je traitais des patients atteints du tétanos, une maladie éradiquée à Cuba. Il y avait des cas de paludisme, des cas graves de dengue et d'autres maladies transmissibles comme le VIH. Donc notre travail était nécessaire, mais ça, c'est à cause de la politique, non ?
La cinquantenaire à la peau très noire et aux yeux doux avait déjà réalisé 5 missions à l'étranger en tant qu'épidémiologiste. Elle faisait partie de la première brigade envoyée au Venezuela dans les années 90, une période économique difficile pour Cuba qui impulsait ce programme d'échange médical. Fidel Castro et Hugo Chavez échangeaient alors des milliers de médecins contre des milliers de barils de pétrole. Un programme présenté comme solidaire qui représentait jusqu'alors la première entrée de devises dans le pays, 6 milliards de dollars en 2018. Le retour de 9640 médecins en un an représente donc un manque à gagner pour Cuba, qui accuse l'administration de Donald Trump d'étouffer l'économie de La Havane via son influence sur le continent sud-américain. Marta enfile sa blouse blanche pour se rendre à l'université de médecine de Rilon. Elle va rencontrer ce jour-là des étudiants et un collègue de retour de Bolivie, Agustín Pérez Mesa.
Je n'ai jamais vu de telles agressions aussi hostiles contre une brigade médicale. Ils nous accusaient de ne pas être des médecins mais des militaires et que nous soutenions et financions les manifestations. Donc nous ne pouvions plus travailler parce que notre intégrité était menacée.
En Bolivie, depuis le départ d'Evo Morales, mais plus généralement en Amérique latine, les missions médicales cubaines n'ont jamais été autant critiquées. Les médecins sont accusés de fomenter des guérillas, de travailler comme des esclaves ou encore de ne pas être suffisamment diplômés. Une critique largement rejetée dans cette faculté de médecine par la professeure Adina Pérez, qui a également servi durant 2 ans en mission en Haïti.
Je crois qu'il faut vraiment être ignorant pour croire de tels mensonges. Ils n'ont pas pu nous discréditer autrement et ils essayent à travers ces missions qui sont une des réussites de notre révolution, de nous accuser de je ne sais quoi.
À Cuba, les généralistes sont formés gratuitement durant 6 ans, avec une pratique en hôpital dès le début des études. La formation des professionnels de santé a été une priorité dès le début de la révolution pour compenser le manque de médecins ayant fui à l'arrivée du régime castriste. Des médecins là où ils font défaut, c'est le principe de la politique de santé cubaine qui, malgré les critiques, entend bien continuer ses collaborations internationales en formant également des milliers de jeunes, majoritairement latino-américains et africains, sur l'ancienne base de la marine cubaine à l'école latino-américaine de médecine.
Domitille Piron pour France Culture. Des phénomènes météo extrêmes alimentés par le changement climatique ont frappé tous les continents peuplés en 2019. Et selon un rapport publié par l'ONG britannique Christian Aid, au moins 15 catastrophes naturelles liées au changement climatique ont causé des destructions d'un coût de plus $1 milliard l'année dernière. 7 d'entre elles, des dégâts d'au moins 10 milliards. Maxime Combe est économiste et membre de l'association ATTAC. Il était l'invité du journal de Midi et Demi sur France Culture. Et pour lui, cette étude ne reflète pas l'ampleur des conséquences de ces catastrophes.
En prenant les impacts qui sont mesurés par les assurances, vous avez simplement une prévalence plus grande de ces catastrophes et de leur impact, la mesure qui est faite dans les pays développés, les pays industrialisés, là où les biens sont assurés. Alors qu'effectivement, la majeure partie des catastrophes qui ont lieu dans les pays du Sud, dans les pays où il y a moins d'infrastructures qui sont assurées, peuvent avoir des impacts bien plus importants, notamment en termes de victimes, en termes de destruction de l'économie vivrière locale qui permettent à des gens de survivre, de vivre, et qui n'ont plus ces outils-là ou ces capacités-là pour le post-catastrophe, alors que dans les pays du Nord, effectivement, ou les pays riches, il y a effectivement des moyens pour faire face aux conséquences des réchauffements climatiques, aux conséquences de ces catastrophes, et surtout, donc, du coup, pouvoir reconstruire et pouvoir prendre en compte également ceux qui sont victimes de ces catastrophes. Donc oui, il y a un biais là qui est relativement important.
Ces chiffres, des milliards de dollars de destruction, ce coût financier ne donne pas une vision globale non plus de l'étendue de ces catastrophes, notamment leur coût humain.
Bah, ce serait réducteur de quantifier les 1900 morts en Inde, les 1300 morts au Mozambique, et de leur donner une valeur monétaire pour essayer d'avoir une unité unique de comparaison et de mesure des catastrophes aux quatre coins de la planète. Ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, quand on les agrège, quand on les additionne, même avec des évaluations monétaires qui peuvent être discutées et qui sont discutables, on voit effectivement l'ampleur des conséquences du réchauffement climatique, et on a là un outil à la fois de sensibilisation de l'opinion, mais aussi pour essayer de montrer clairement que la non-action en matière de lutte contre le réchauffement climatique aura des conséquences monétaires extrêmement fortes, parce que souvent on a un débat sur le réchauffement climatique qui tient à « oui, mais agir aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique, ça coûte cher ». Ben, on voit que l'inaction et simplement subir les conséquences des dérèglements climatiques coûte extrêmement cher également.
Les propos recueillis par Véronique Rebérotte. C'était une mesure présentée comme écologique et aussi en faveur de la sécurité routière. La limitation de vitesse sur les routes à 80 km/h avait fait partie des mesures qui avaient alimenté la colère et la crise des gilets jaunes l'année dernière, avec aussi la hausse des taxes sur les carburants poussant le gouvernement à faire marche arrière. Depuis hier, l'autorisation a été publiée au journal officiel. Elle donne la possibilité aux départements qui le souhaitent de repasser de 80 à 90 km/h sur un certain nombre de routes, suivant plusieurs conditions. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Alors qu'au départ, ce retour était une demande forte des élus des départements, il se montre aujourd'hui beaucoup plus frileux.
Oui, beaucoup de présidents de départements se réjouissaient de pouvoir autoriser à nouveau sur un certain nombre de routes départementales une vitesse maximale à 90 km/h. Mais maintenant que la loi l'y autorise, ils déchantent un peu. D'abord parce que les conditions administratives fixées par l'État sont très contraignantes. Les services de l'État exigent par exemple pour passer une route à 90 qu'il n'y ait aucun arrêt de bus sur une portion de 10 km au minimum, et que sur cette même portion d'au minimum 10 km, il soit interdit de tourner à gauche, ou encore qu'il n'y ait aucune intersection ou sortie privée qui mène à une habitation. Autant dire que ça limite considérablement le nombre de routes potentiellement concernées. Ensuite, certains craignent d'être mis en cause juridiquement en cas de multiplication des accidents sur une route qu'ils auraient fait repasser à 90 à l'heure. Un président de département peut-il être déclaré responsable? Dans quel cas? L'incertitude commence à en faire réfléchir quelques-uns. Enfin, il y a une question d'argent. Ça pourrait nous coûter extrêmement cher, disent déjà plusieurs élus. Parce qu'auparavant, quand la loi disait 90, il n'y avait pas besoin de signalisation. Tout le monde savait que c'était la règle. Même chose aujourd'hui pour les 80 à l'heure. Pas besoin de l'indiquer. On roule à 80. Mais si on sort de la règle commune en rehaussant la vitesse à 90, il faut le signaler tout le long de la portion concernée, et ensuite signaler quand on repasse à 80. Il va donc falloir fabriquer et poser un grand nombre de panneaux, et ce sont les départements qui vont payer. Toutes ces contraintes conduisent donc les élus, très enthousiastes à l'origine, à revoir nettement leurs ambitions à la baisse sur les 90 km/h.
Merci Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Alors que la grève contre la réforme des retraites a dépassé la longueur de celle de 1995, au 23e jour du mouvement, aujourd'hui à Nantes, des syndicats des transports en commun de l'agglomération nantaise ont déposé un préavis pour 6 mois. Jean-Philippe Adobati est délégué Sud Solidaire à Sémitane, la société des transports en commun de l'agglomération nantaise.
Les salariés, depuis avant le 5 décembre, nous demandent à pouvoir se mobiliser, ce qui est aussi, comme vous le disiez, assez rare sur les mouvements nationaux. Ça arrive très peu souvent à la Sémitane. Donc, c'était le seul moyen pour permettre aux salariés, syndiqués ou non, de pouvoir se mobiliser, d'aller dans les cortèges de manifestations quand ils ont lieu à Nantes. Pour le projet de réforme des retraites, on a une forte demande des salariés, syndiqués ou non d'ailleurs, qui approchent les syndicats de la Semitane en disant qu'ils ont le souhait de pouvoir se mobiliser et manifester aussi. Et donc, ils ont besoin d'un préavis. Donc, du coup, les syndicats de la Semitane, je pense, sont plutôt ravis, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que ça fait plaisir à personne de perdre du salaire sur une journée de grève. Mais on est plutôt enthousiasmé que les gens souhaitent se mobiliser, surtout sur une réforme aussi énorme et aussi avec autant de conséquences. Ça fait du bien de voir que les gens se sentent concernés, bien sûr.
Jean-Philippe Adobati, délégué Sud Solidaire, répondait à Pascal Boucherie. 23e jour de mobilisation donc contre la réforme des retraites, avec un trafic encore très perturbé annoncé pour ce week-end. 6 TGV sur 10 en circulation, un Transilien sur 5, avec dans le métro 6 lignes qui seront fermées demain à Paris, 2 bus sur 3 circuleront. Le trafic RER restera perturbé avec en moyenne un RER A sur 2 à la mi-journée, un RER B sur 3. Le temps pour demain, des nappes de brume sur la Normandie, la Bretagne, les pays de la Loire et l'Auvergne, des nuages sur la région parisienne, sur l'Alsace ainsi que la région lyonnaise, un grand soleil en revanche sur les Alpes, le Pays Basque et le long de la Méditerranée. Les températures seront comprises en moyenne le matin entre moins 1 et 12 degrés, moins 1 degré à Chambéry, 1 degré à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 3 à Dijon, 7 à Limoges et Paris, 8 à Montpellier, jusqu'à 12 degrés à Perpignan.